de pointe, Philippe Subercase.
Samedi 16 mars, c'est une belle proposition que vous allez nous faire. Rendez-vous est donné à 8h au Palais des Congrès. Cette opération s'appelle « J'aime la nature ». Bonjour Fabrice Nieto-Borde.
Bonjour Philippe.
Merci d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de cette opération « J'aime la nature ». Alors, on va voir qu'il y a beaucoup d'associations, mais vous, vous représentez, vous êtes le président fondateur d'une structure qui fait parler en ce moment sur les réseaux sociaux depuis quelques années. Elle s'appelle « Les Petits Pédestre, petit clin d'œil là, on va le faire de suite à une série Kaamelott.
À Monsieur Astier, oui, voilà, exactement, qui est un grand artiste français, voilà, un petit clin d'œil. Les Petits Pédestres, oui, c'est donc du coup une association, ça fait 4 ans que nous sommes sur Lourdes et sur les alentours. On a eu le plaisir d'aller nettoyer la Mongine, on visite la vallée un petit peu, mais voilà, principalement lourdaise pour la fondation.
Alors, avant de rentrer un peu dans les coulisses de cette organisation du samedi 16 mars, où vous allez nettoyer plusieurs endroits autour de Lourdes, que ce soit le pic du Gers, le Béhout, le bois de Lourdes, le bois au-dessus de la Sèbe, ainsi que le bois de Mourles. Voilà, vous avez cette grande opération avec, il y a chasseurs, il y a l'UAL, il y a le VTT, enfin, il y a beaucoup de gens qui vont se greffer. On va en discuter. Mais j'aimerais qu'on parte un peu à l'origine de cette structure, les Petits Pédestres, de cette association loi 1901. C'est un collectif citoyen, vous me disiez.
Oui, on a commencé à 3-4 citoyens. On avait commencé à ramasser spontanément, voilà, personne naturellement sensible, je pense, comme la majorité des gens. On s'est dit, bon, ben, on va nettoyer les petits sites. Au lieu de ramasser tout seul nos petites poches, on s'est dit, bon, on va commencer 2, 3, 4. Et ça a pris. On a commencé à en parler aux copains, comme on dit, sur Lourdes. On a commencé à faire des petites sorties, 3, 4, 6 personnes. On était dans la zone du confinement. Donc voilà, c'était une période où les gens avaient besoin de se réunir aussi.
C'était pendant les périodes où on avait le droit de sortir, c'est ça, hein?
Oui, voilà, exactement.
D'accord. Plus ou moins.
Non, plus ou moins. En fait, voilà, on avait pris aussi ce contre-pied de collectif citoyen pour pouvoir faire des sorties légales à ce moment-là.
D'accord. Il y avait un but et une raison.
Voilà, il y avait un but et une raison. Donc, on sortait vraiment, on était dans des endroits isolés à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'aussi les forces de l'ordre ne nous avaient pas embêtés. Ils étaient au courant de nos opérations et elles savaient que, voilà, on prenait les mesures nécessaires à cette époque-là aussi.
Alors, vous me disiez que avant d'arriver à Lourdes, vous aviez fait ce constat sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Vous êtes tombé un petit peu amoureux de ces chemins de Saint-Jacques et qui vous ont amené jusqu'à Lourdes. Mmh. Vous aviez trouvé déjà que le long de ces chemins, les gens ne respectaient pas trop, jetaient. Et vous avez commencé par petit à petit, pire à l'édifice, hein, vous avez commencé à nettoyer ces chemins de Saint-Jacques.
Hein. Voilà, exactement. C'était parti du Puy-en-Velay, hein, le star traditionnel français. Et je ramassais environ entre 4 et 6 kilos de déchets minimum par jour. Donc vous multipliez par 30-60 jours au total, hein, pour le pèlerinage jusqu'à Santiago. Vous voyez déjà juste une personne combien elle peut ramasser de déchets. Voilà, après c'est un natif des Pyrénées, le constat est aussi malheureusement sur nos randonnées, sur le GR10, il n'est pas épargné non plus. Voilà, tout ça, ça a commencé un peu comme ça.
Je ne peux pas ne pas imaginer ce film des bronzés font du ski où on les voit jeter toutes leurs ordures dans la montagne et la personne qui lui dit, ben oui, mais c'est dégueulasse parce que... alors là, tu dis, mais c'est pas grave, la neige va recouvrir. Et lui dit, oui, mais l'été, la neige, elle n'y est plus, on va voir tous les déchets. Oui, on s'en fout, l'été, nous, on est à la plage. Est-ce que c'est un peu ça aussi le constat que vous faites? Les gens sont, voilà, ils jettent.
Les périodes touristiques sont les entre-deux, justement, c'est où est-ce qu'on remarque ces déchets, été, hiver, on va dire, voilà, pour les petites collections.
Oui. est-ce que c'est quelque part, vous me disiez quand même que ça fait donc depuis 2020, nous sommes en 2024, ça fait 3-4 ans que vous œuvrez. Vous me disiez quand même qu'il y avait un changement de comportement, vous voyez une amélioration, ne serait-ce que sur le site du lac de Lourdes.
Oui, exactement, ça fait partie des premiers sites sur lesquels on est intervenu, nous en tant que collectif, puis associatif. On était à une moyenne de 2 bennes, puis 2 bennes, puis une benne. Ça a beaucoup diminué suite à nos actions et on a vu qu'également ça intéressait les écoles qui sont venues nous aider, ça intéressait diverses associations locales qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait, mais qui ont dit ouais, ben, ça peut être intéressant d'apporter notre pierre à l'édifice. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à ça, mais qui n'osent pas trop ou ne savent pas trop faire non plus. D'accord. Donc voilà, nous on sert de petits relais tampons avec nos petites connaissances et des gens motivés, justement.
Vous me disiez en préparant cet entretien que vous n'êtes ni dans la critique ni dans le jugement. Vous faites des constats et puis vous retroussez les manches, même si déjà c'est fait aujourd'hui.
Voilà.
Et vous y allez, vous faites hein, sans porter de jugement, sans essayer d'être moralisateur.
Oui, j'estime et je pense que c'est pour ça aussi qu'on est une petite famille qui se crée au fur et à mesure. Voilà. On va faire la chose, ça va être présenté aux gens et juste, je pense que du fait de s'en apercevoir naturellement, c'est un autre déclic que si on va dire bon ben ah ça c'est pas bien, on le sait déjà que c'est pas bien, il y a pas de problème, on a plus de temps à perdre avec ce genre de choses, autant faire, voilà, on dit aux gens ben on peut faire ça gratuitement, hop allons-y.
Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent mais pourquoi c'est vous qui le faites alors que les collectivités quelque part dans nos impôts il y a la salubrité publique qui est rentrée en compte et donc ça devrait être donc entretenu par le personnel communal ou départemental suivant où se trouvent les déchets. Comment ça se fait aujourd'hui que ce soit un collectif citoyen qui soit obligé de nettoyer ce que nous, on paye théoriquement dans nos impôts?
C'est malheureusement le cas partout. Hein. En fait, si vous regardez dans chaque agglomération, il y a des associations comme les nôtres, que ce soit en montagne, à la mer, en ville. Et c'est obligé de faire un complément. Voilà, c'est un ratio pollueur-nettoyeur. Malheureusement, dans l'état critique qu'est notre environnement maintenant, on peut ne faire qu'un petit ratio. Et j'espère qu'à terme, on va pouvoir avoir un petit peu moins de pollueurs. Mais je ne suis pas un grand rêveur là-dessus.
Un peu quand même, puisque sur le lac, vous me disiez qu'il y avait quand même à force des résultats.
Oui, il y a des résultats, mais sur nos communes, on arrive peut-être à faire des contrebalances. Voilà, mais il faut qu'on s'y mette tous. Hein. Ce n'est pas nous, notre petite famille, nos petits pédestres, justement, ne peuvent pas y arriver tout seuls. C'est ensemble qu'on y arrive. C'est comme ça qu'on arrive à des bons constats sur notre commune, parce qu'on travaille ensemble.
Alors, les petits pédestres, donc, vous allez, une partie de votre vie, vous avez été sur les chemins Saint-Jacques, vous avez commencé à faire ce nettoyage, vous arrivez à Lourdes et ça vous titille encore hein, et vous constatez qu'il y a plein d'endroits qui sont vraiment à quelque part à l'abandon et avec beaucoup de déchets. Vous débutez un peu tout seul et comment est venue l'idée de créer cette structure associative du coup?
C'est les gens qui ont poussé à cette idée. Hein. Le collectif citoyen, à un moment donné, on avait dépassé les 40, 50. On avait énormément de demandes de sortie aussi de la part des gens. Donc on a été obligé de commencer à se structurer un petit peu. On a la mairie qui nous aide beaucoup en nous prêtant des bennes. Et bien, il y a un système, il y a des assurances, etc. Donc voilà, on a pris l'effet associatif et ça permet aux gens et aux radios, peut-être au système de presse, de nous connaître un petit peu, de voir comment on fonctionne également. Je pense que c'était nécessaire pour faire rendre compte aux gens qu'on a envie de travailler, mais il faut faire les choses dans le bon ordre, voilà.
Alors, vous arrivez à fédérer, vous me dites qu'aujourd'hui, vous êtes entre 20 et 25 personnes.
Sur chaque opération. On est une soixantaine, 70 bénévoles adhérents en ce moment.
D'accord.
On est sur une moyenne toujours un petit peu montante. Voilà, on a des gens qui nous soutiennent simplement, des gens... C'est très facile pour être un petit pédestre. Hein. C'est l'adhésion. L'adhésion nous demande de faire qu'une seule action par an. Voilà. C'est une action qui doit être de sensibilisation pour nous, c'est ça. Comme ça, les gens voient comment ça se passe. Et souvent, quand on commence à voir l'état de la nature, on y revient.
Quel est le profil de ces personnes qui viennent vous rejoindre?
Il n'y a pas vraiment de profil type. Je pense qu'on a vraiment, vraiment accueilli tout le monde, de 3 ans à 84 ans, je pense. Voilà, c'est le profil, c'est la personne naturellement sensible aux Pyrénées, je pense. On se souvient qu'on est dans les montagnes, qu'on aime ça. On sait pourquoi on aime vivre dans ces vallées-là.
Qu'est-ce qui se raconte lorsque vous partez le matin? Donc, rendez-vous est donné, ben là, par exemple, sur le samedi 16 mars au Palais des Congrès avec un petit café pour démarrer la journée, la matinée. Qu'est-ce qui se raconte, les gens autour, et quand ils reviennent? Est-ce que Il y a ce constat de dire que vraiment, on est tous, quelque part, on a des fois jeté un truc à travers la fenêtre de la voiture et tout, et on est tous un peu responsables des fois.
On est.
Qu'est-ce qui se dit, ce constat à la fin, quand on a les mains pleines de déchets, de...
Eh bien, les gens sourient, ils sont contents.
D'accord.
C'est très bête, mais voilà, j'ai Jean avec moi là qui est bénévole de la première heure, il saura vous le dire aussi. Mais j'ai constaté que les gens sourient, ils sont fatigués, ils sont courbaturés,
Oui. Mais content d'avoir fait ça.
ils sont très très contents d'avoir fait ça en fin d'opération.
Jean.
Et on peut être déçu aussi, on est parfois déçu quand on a vu que quelqu'un passe avant nous et que le site a été nettoyé.
Bon, bah
on
parce
est
que
un petit peu déçu.
Voilà, des fois, pour le petit clin d'œil, vous dites que vous allez intervenir dans un endroit parce que c'est forcément et ça en a besoin. Et on passe un peu devant vous, peut-être pour un effet de honte, pour le nettoyer un peu avant que
Voilà,
vous arriviez. Et
ce
qu'on
qui
mette
est
pas
arrivé.
qui est arrivé. Donc, on ne dira pas où et on ne dira pas qui, mais c'est arrivé tout à fait. Les petits pédestres, vous prenez petit à petit une ampleur. Ça, c'est plutôt bien, parce que des messages, quelque part, n'étant ni dans le jugement, ni dans la critique, ni même dans les coups de gueule, hein, on peut dire, eh bien, petit à petit, il y a petit pédestre. Hein, voilà, c'est qu'on vous retrouve régulièrement. Vous avez une page Facebook. Alors, si vous, les auditeurs veulent retrouver cette page Facebook, il suffit de taper donc les petits pédestres avec Lourdes à côté, parce que sinon on va tomber sur Kaamelott et plein d'extraits vidéo assez
Exactement.
rigolo, assez rigolo. Donc, les petits pédestres en mettant Lourdes. On trouve, ben voilà, toutes les opérations que vous avez menées. Vous en êtes, vous me disiez, vous étiez à 67 tonnes de déchets collectés.
Environ, oui. Je pense qu'on a même peut-être dépassé le chiffre. Je dis toujours un peu en retard, mais oui, ça va très vite. Une opération classique, comme sur le Béout, il y a 2 semaines, c'est 1 tonne de déchets, ça va très vite. Hein. 20 personnes qui ramassent chacun sa dizaine de kilos de déchets, ça va très très vite. Hein. Après, on a la malchance de ramasser du pneu, du frigo, et ça chiffre très vite en termes de kilos.
Jean.
Oui, à chaque action, on pèse. On pèse les sacs
Voilà.
pour avoir le nombre de kilos exact
Ah,
qu'on a ramassé dans la matinée ou dans la journée.
C'est ça. Suite à des échanges avec d'autres associations qui sont similaires à nous, on apprend intra-association à savoir comment faire. Donc c'est comme ça qu'on arrive, on a des grosses balances spéciales à déchets et on arrive à avoir des estimations relativement précises.
D'accord. Et puis bon, il y a les bennes aussi. Sur les bennes, elles sont pesées, je pense, pour...
Les bennes sont pesées par la mairie. Au début, on faisait comme ça, c'est-à-dire que c'était les services techniques qui nous disaient « Bon, ben vas-y, tu avais fait ça tant sur la benne. »
D'accord.
Maintenant, on arrive un petit peu plus, nous, à évaluer, tiens, « Ah, ben oui, mais on a ramassé tant de plastique, tant de verre. » Voilà, ça nous permet de pouvoir évaluer un petit peu plus les types de déchets ramassés.
Est-ce que du coup, il y a aussi la complexité du tri? Parce que vous ramassez un peu de tout, donc on sait que nous, citoyens, on doit trier le carton, les déchets ultimes, la ferraille.
On le fait au départ, justement. À chaque opération, quand on a mis tout en tas, ensuite, à plusieurs, on trie les bouteilles, les canettes, le carton et la ferraille. Voilà,
parce que alors, du coup, on vous met des bennes en conséquence.
Voilà, oui et non, c'est-à-dire dans la benne, les différentes comment dirais-je, composantes sont répertoriées.
Voilà, la benne ferraille, la benne verre et tout ça. Donc là, après, donc, il y a ce travail de collecte et après, il y a ce travail aussi à vous de
c'est
trier.
Ce n'est pas un travail, c'est de la pédagogie. C'est-à-dire que chaque personne a sa place sur une opération. Il y a des personnes qui ne peuvent pas trop marcher ou quoi que ce soit. Dans ce cas-là, on va les mettre près de la benne, qui est souvent l'aire d'accueil, où est-ce qu'on peut poser son sac, son matériel. Et ben, au lieu d'aller crapahuter dans les bois, on a des personnes qui apprennent ou qui vont transmettre leurs connaissances sur le tri, qu'est-ce qui est encore triable, qu'est-ce qui ne l'est plus. Donc voilà, on se goupille comme ça, c'est pas vraiment un fardeau. Nous, on prend ça comme de la pédagogie.
Merci Fabrice Nieto-Bordé d'être venu avec nous. On découvre un peu cette structure qui s'appelle les petits pédestres. Si on n'est pas, voilà, si on lit la presse locale ou les réseaux sociaux, vous êtes souvent à l'initiative d'opérations de nettoyage de notre nature, de nos coins. Même si vous êtes dans le centre-ville par moment, parce qu'on va le voir, vous êtes avec des structures qui ne permettent pas, des structures associatives qui ne permettent pas d'aller très très loin, donc vous faites aussi dans le coin. Mais votre projet, c'est vraiment être un peu aux alentours, en périphérie de la ville.
C'est les espaces verts. Oui. C'est notre mission première et c'est développé comme ça. Espaces verts, espaces aquatiques, bien sûr. On a beaucoup joué sur le Gave aussi également. Mais oui, c'est effectivement espace vert avant tout.
Parlons de cette opération du samedi 16 mars. Alors, c'est à l'initiative, vous me disiez, de la Fédération française de chasse. Donc, il y a, vous me disiez, 34 départements en France qui vont faire cette opération samedi.
Oui, exactement. Voilà, la Fédération nationale de chasse, depuis quelques années, à la fin de leur saison, ont enclenché justement avec toutes les associations de chasse locales volontaires à faire ce genre de nettoyage, de mouvement. Nous, naturellement, quand l'association Saint-Hubert, association de chasse locale, nous a appelés pour demander si on voulait participer, on a répondu oui, bien sûr.
Et donc, vous allez à donc, c'est la Fédération de chasse qui est donc, a fait cette opération qui s'appelle J'aime la nature. Vous allez leur donner un coup de main, vous allez aussi leur donner un peu votre aide et puis votre constat, oui. Votre diagnostic. Mais plein d'autres associations se sont greffées. Est-ce qu'on peut citer un peu les noms des associations qui vont venir vous aider? Vous m'avez parlé de l'UAL, ceux qui font les courses, l'Union Athlétique Lourdaise, oui. Lourdes VTT.
La Fédération de Pêche également, qui oui. vient nous aider. On a le kayak Club Lourdes qui vient nous aider.
Terra Nostra.
On a Terra Nostra, l'Extraordinaire. On a le tiers-lieu à Massa également qui va mobiliser quelques bénévoles, même s'ils n'en ont pas beaucoup. Voilà, c'est énormément de petites associations ou structures qui nous connaissent de près ou de loin et qui sont aussi sensibles, pour le coup, à l'environnement. Et ça fait très, très plaisir. Voilà, de voir cette réunion spontanée pour cette journée-là, surtout sur Lourdes.
Samedi 16 mars, donc, en fait, les gens qui nous écoutent peuvent venir comme ça, volontairement. Au Palais des Congrès, à partir de 8h30, à partir de 8h, il y aura un café proposé, puis ensuite, eh bien, au travail, vous allez...
8h, on donne le café en premier, oui. Les petites consignes de sécurité où on va distribuer gants, sacs et les sites vers lesquels on va se diriger. Et après, au boulot, exactement.
Au boulot. Et ensuite, vous me disiez, il y a le retour au Palais des Congrès pour un déjeuner proposé par les chasseurs.
Exactement, voilà, vers 11h30, fin du travail.
J'arrive à partir à ce moment-là. Alors, à 11h30, donc, il y a le repas qui est proposé par les chasseurs pour récompenser les gens qui sont venus travailler.
Et oui, exactement, parce que ça creuse. C'est beaucoup de squats d'aller ramasser les déchets. Donc, on se lève, on se baisse, on porte beaucoup. J'espère qu'on ne trouvera pas beaucoup de pneus, mais... ça va être très très sportif, donc on les remercie d'emblée pour ce petit geste.
Vous me disiez aussi que ce qui était étonnant, c'est que vous ne demandez rien mais vous obtenez. Quand vous avez des demandes, bien, par exemple vous dites des gants, bien, on nous donne des gants, il faut ça, on nous donne ça. Vous arrivez petit à petit à avoir un peu ce qui vous manque et ce que vous avez besoin.
Oui,
comment ça se passe en fait? Parce que vous n'avez pas de subvention, vous n'achetez rien avec une subvention par exemple.
On ne demande pas de subvention, c'est une volonté de notre part. Voilà, c'est au début, comme on est un collectif citoyen, l'idée, la petite idée secondaire.
C'est de rester un peu. Vous pensez qu'une subvention, ça.
C'était de montrer en fait. Il n'y avait pas. C'était pas une histoire que la subvention nous rachète l'image ou quoi que ce soit. C'est l'idée de montrer aux gens, ben voilà, nous, on était 5-10 personnes. Et bien à ces 5-10 personnes, on va réussir à intéresser suffisamment de gens pour pouvoir avoir un ricochet positif sur l'action donnée. Donc pour nous, le ramassage de déchets. Et donc du coup, il y a des gens qui sont venus spontanément nous disant « Ah ben vas-y, nous on ne peut pas venir pour telle ou telle raison, mais on est très intéressés. Est-ce que tu as besoin de pinces, de gants ou quoi que ce soit ?» C'est aussi ça qui a été beau, c'est le développement spontané qui s'est fait.
Mmh. C'est devenu un peu une deuxième famille pour vous?
Ah, c'est une grande famille lourdaise maintenant, je pense. C'est ma famille à Lourdes, de toute façon, clairement, n'étant pas natif du coin.
Oui, vous êtes pas très très loin, vous êtes dans la Haute-Garonne, à côté d'une ville qui s'appelle Lourdes, ouais. Et sans le S, voilà. Vous êtes du côté de Saint-Béat.
Exactement.
Vous êtes natif de là-bas, vous avez vécu votre enfance là-bas.
Oui.
À Saint-Béat. Vous êtes parti sur les chemins de Saint-Jacques, vous avez commencé à nettoyer en passant petit à petit avec une poche, vous avez ramassé les détritus qui étaient sur les chemins de Saint-Jacques. Chemin de Saint-Jacques qui, qui vous ont fait prendre conscience peut-être d'une certaine spiritualité. Alors vous êtes à Lourdes, est-ce que c'est un hasard que vous êtes arrivé à Lourdes ?
Je ne sais pas s'il y a vraiment de hasard du fait que je sois arrivé à Lourdes, mais j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens qui sont justement dans cette recherche de spiritualité, de liberté un petit peu. Et j'ai eu l'honneur de les recevoir aussi exactement dans ma structure, qui était un accueil jacquère. Et non, il n'y a pas de hasard. Je pense qu'on est au bon endroit au bon moment.
D'accord. Ces chemins de Saint-Jacques, vous êtes allé jusqu'au bout ? Ou il vous reste encore des chemins à faire ?
Il me reste encore des chemins à faire. Chaque pèlerin a son chemin, et le mien n'est pas terminé. Je l'ai mis en stand-by à Santiago. Il me reste 130 km minimum à faire.
Pour arriver au terme.
Voilà, mais c'est au terme physique. Voilà. On est toujours en chemin.
D'accord, vous êtes toujours un chemin. Voilà. Vous êtes heureux de voir aujourd'hui que vos actions, elles portent ses fruits, parce que peut-être qu'aujourd'hui, on prend conscience qu'il y a des gens qui nettoient et que tout n'est pas donné par la collectivité, hein, l'État-providence, où on demande tout à l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a un changement de comportement ? Depuis 3-4 ans que vous commencez à...
Localement, oui. Je pense que je suis vraiment ravi du changement de comportement ou de petites séries d'actions pour des petites choses qui sont peut-être un petit peu plus fluides. Je suis heureux de voir qu'il y a beaucoup de gens qui se donnent vraiment avec amour et gratuité. Et je les en remercie beaucoup de suivre cette voie-là de l'humanité, juste simple. Mm-hmm.
Est-ce qu'il y a des découragements, des fois, de voir que c'est un puissant fond, que c'est un éternel recommencement?
Bien sûr, je le reconnais. Et puis certains des bénévoles qui sont venus nous aider beaucoup au début et qui maintenant reviennent un petit peu moins, parce que justement, il y a l'usure physique, mais il y a l'usure aussi un petit peu psychologique. Pour le citoyen lambda qui veut juste donner un petit peu de son temps, c'est usant d'aller ramasser une tonne de déchets par week-end. Des fois, c'est ce à quoi on a été confronté, c'est la réalité, c'est pas grave.
Quels sont d'ailleurs ces déchets que vous trouvez ? Qu'est-ce que jettent les gens en dehors peut-être du déchet ménager classique, d'un mouchoir, d'un paquet de bonbons ou quelque chose comme ça ? Quels sont les déchets peut-être qu'on n'ose pas amener quelque part ? Ou est-ce qu'on peut trouver des voitures, des vélomoteurs, ce genre de choses qui ont été peut-être volées ou...
Qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé ?
Qu'est-ce qu'on n'avait pas trouvé ?
Voilà, la question, elle est là. Qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé ? On a vraiment trouvé de tout.
Des batteries, des genres de...
Des batteries sous le château fort. On a trouvé une batterie avec Jean il n'y a pas longtemps.
Des revolvers de tir.
Voilà.
Des revolvers de tir.
Oui, de tir de foire. Alors.
Voilà. D'accord. Des revolvers. On a trouvé des balles, des lecteurs DVD avec des DVD appropriés à côté.
D'accord. Dans le bois, on a trouvé ça. Et des coupes de... C'est de pétanque, je crois.
Oui,
des coupes de pétanque.
Des coupes de pétanque.
Mais on jette
de vainqueur, d'un vainqueur de pétanque.
Oh, qu'est-ce qu'on ne jette pas, hein. On a trouvé tout l'électroménager qui s'est créé jusqu'à maintenant. Je pense qu'on l'a sorti. On a sorti une Cinca il n'y a pas longtemps. Hein. On parlait de voiture. Donc on a sorti une Cinca au-dessus de la SEB, justement.
Et un moteur.
Qui était quoi dans
un moteur dans le gave, on a sorti.
D'accord.
On trouve vraiment de tout.
Est-ce qu'il y a des objets qui feraient peut-être... où la police, elle pourrait s'y intéresser sur des recherches, des vieilles recherches,
hein. Alors, ça nous est déjà arrivé.
Portefeuille.
On avait trouvé un nid de portefeuille en centre-ville, justement, près de l'ascenseur.
L'ascenseur derrière l'hôtel Mercure.
D'accord, voilà. L'ascenseur qui a été financé par les hôteliers pour aller jusqu'au cimetière de l'égalité. Hein.
Exactement.
Là, on jetait des portefeuilles. Donc, quand on a nettoyé ce petit bosquet...
Vous avez trouvé des
portefeuilles.
C'est des pickpockets, qui avaient pris l'argent liquide, voilà, et qui avaient laissé le portefeuille.
Ils jettent ça là-bas. Nous nettoyant innocemment cette zone, évidemment, on trouve ce genre de lieu. On signale. Alors au début, on travaillait avec la police nationale ou municipale. On signalait comme ça. Maintenant, on signale aux gardes champêtres vers lesquels on s'est rapproché.
Alors, il y a eu la création sur la ville de Lourdes de deux postes de gardes champêtres qui ont effectivement leur mission principale, c'est effectivement tous ces dépôts d'ordures, de déchets, malheureusement, les déchets qui sont mis un peu n'importe où. Ils essayent de retrouver les auteurs de ces faits.
C'est pas évident.
Voilà, ils ont le droit d'ouvrir les sacs et regarder s'il y a une enveloppe ou avec une adresse pour essayer de retrouver l'identité de cette personne qui fait. qui ont fait ce dépôt sauvage. C'est, je crois que l'amende est à 130 euros, je crois. Hein.
135 euros, 135, ça, oui. Ça va être pour la crotte de chien en centre-ville ou le dépôt. Si c'est vraiment un dépôt comme nous, on intervient, l'amende est un petit peu plus salée.
Un petit peu plus salée, oui. Oui. Donc c'est, ça va dans le bon sens, d'après vous aussi, donc, du coup, d'avoir la création de ces deux gardes champêtres ?
Bien sûr, parce que nous, on est là pour faire des constats, de la pédagogie pour ceux qui souhaitent, mais on n'est pas là pour faire de la répression. Hein, ou pour... Donc du coup, que l'État ou la municipalité ait pris justement le problème à cœur en créant les postes adaptés, je pense que ça peut avoir un effet encore plus positif.
Jean ?
Oui, pour les objets les plus souvent trouvés, il y a les bouteilles, de moins en moins quand même, les canettes de plus en plus, puisqu'on les trie, donc on voit, et les pneus. Alors là, les pneus, c'est... on a des... on peut dire des mines de pneus à certains endroits. Ah oui. On a l'Arboco, c'était inimaginable. Pendant des années et des
L'Arboco,
années.
L'Arboco, c'est où, pardon
Près du champ de tir.
Le stand de tir, oui.
Près de
vers le bois de Lourdes. Hein.
Voilà.
Vers le bois de Lourdes. Voilà. Pour les gens qui nous écoutent, voilà. Le Gers sont un petit peu loin, voilà, vers le bois de Lourdes.
On avait ça en contrebas, je vois, depuis des générations. Les locaux jetaient des pneus, toutes sortes de pneus, de voitures, de tracteurs. Et là, c'était pas très facile à les enlever parce qu'il y a une pente, quoi.
Oui.
Il fallait les treuils.
Il faut être sportif.
Il faut être très sportif, corde. Parce que la pente est très forte.
On a fait des chapelets de pneus ce jour-là. D'accord. Réellement.
Voilà, c'est essentiellement ces trois pneus, trois objets, trois éléments, pneus, bouteilles et canettes.
Et canettes. Hein. Canettes.
Voilà.
Sont le, un peu
et
le...
après, c'est la ferraille.
Ferraille, quoi, des carcasses de vélo, ce genre de choses de...
Beaucoup de carcasses de vélos, on a trouvé carcasses scooters, des cumulus, des frigos. Des frigos, on en trouve beaucoup d'ailleurs. Les gens ne savent pas où jeter leurs frigos, visiblement. Oui.
Et Fabrice a trouvé une astuce aussi, ils font de la pêche...
La pêche à l'aimant.
La pêche à l'aimant.
Ça nous a beaucoup aidé. Bon, il y a beaucoup d'amateurs qui le font aussi au lac de Lourdes, mais... Voilà, sur le Gave ou sur certains endroits un petit peu profonds, voilà, on peut racler un petit peu les petites pointes qui pourraient traîner, ou les plus gros éléments. Hein. On peut ramasser jusqu'à des réservoirs, on a ramassé là, dans le virage de Soum.
D'accord.
Ils jettent les mains avec une corde qui est naturellement.
Voilà, et on,
ramasse.
C'est ça. La pêche à l'aimant, oui. On en voit des fois des reportages sur des cours d'eau. Effectivement, les gens retrouvent des voitures, des moteurs, des. Voilà.
Des coffres, mais pas nous. Si, on a retrouvé des coffres forts.
Oui, un coffre fort.
Dessous du camp des gens des voyages, anciennement. On a trouvé 5 coffres forts là-bas.
5 coffres forts.
Il en reste un parce que trop lourd. Beaucoup trop lourd.
Vous y êtes donc 60 à 70 personnes sont adhérents à votre association. Vous avez toujours entre 20 et 25 personnes sur les opérations que vous menez. Comment elles sont déterminées, ces opérations ? Par exemple, un temps de pluie ou de mauvais temps, vous n'y allez pas quand même ?
Ça nous arrivait.
Ça vous est arrivé ?
Même qu'il neige au thé, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, comme on dit, on va y aller. Après, bien sûr, les gens savent... ça veut dire, il pleut trop, on ne vient pas. Il n'y a aucune obligation, hein, ça on comprend. On va essayer d'éviter les mauvais jours, bien entendu, mais des fois, la météo, elle tourne.
Et quelle est la fréquence, alors ? Comment vous fonctionnez tout au long de l'année ? Quelle est la fréquence des opérations ? Et pourquoi une opération plus que d'autres ? Est-ce que vous avez été alerté par quelqu'un disant, tiens, cet endroit serait à nettoyer ou c'est un peu le hasard ?
On a une communauté, maintenant, WhatsApp, qu'on a développée. Au début, on était un groupe. Maintenant, on a fait évoluer ça en communauté parce qu'on a un petit peu plus de membres qui parlent. Donc, on a voulu éclaircir tout ça. Il y a des gens qui passent, qui se promènent bêtement ou qui ont contact ou qui font partie des adhérents. Ils vont dire « Ah, j'ai vu ça », ils nous envoient des photos. On a des signalements citoyens où nous, on connaît quand même pas mal de zones en se promenant. Et après, on va se dire « Tiens, tel jour, qui est partant ?» On y va et voilà. C'est aussi simple que ça, en fait. Hein. C'est, on voit, on fait.
D'accord.
Comme ça, il n'y a pas de projet en cours.
La deuxième phase, est-ce que vous faites ces constats, vous allez nettoyer, les collectivités vous aident à travers les bennes qu'elles vous mettent à disposition ou toute autre aide. Est-ce qu'aujourd'hui vous faites un constat sur le fonctionnement de nos déchets dans ce département ou dans cette région ? Est-ce que vous avez des contacts avec par exemple
le
syndicat
contact,
qui s'occupe du traitement des déchets ?
Oui, on commence à avoir de plus en plus de contacts avec ces syndicats, avec des élus de divers bords. Comme ça nous permet déjà de travailler un petit peu, à voir, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui va se passer aussi. Parce que bon, ben, c'est bien, on intervient comme vous dites, mais on essaye de voir qu'est-ce qui serait probable de faire dans ces zones-là, de la sécurisation de la zone peut-être, soit alors justement signaler aux gardes champêtres maintenant, qui eux peuvent signaler à des autorités un petit peu plus haut. On fait partie d'une boucle maintenant, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent avancer sur le sujet réellement, donc ben, on travaille tous ensemble.
Parce qu'un mouvement citoyen, c'est aussi essayer de changer les choses.
Oui, c'est ça, exactement.
Donc changer les mentalités, effectivement, nos mentalités à nous, à chacun, hein, d'essayer d'être moins pollueur, déjà, une belle chose, mais aussi du côté des administrations, essayer aussi de faire bouger les choses.
C'est ça, mais ça bouge. Des fois, un peu plus long sur certains sujets que d'autres, mais ça bouge, ça avance.
Vous êtes fier de votre parcours jusqu'à présent ?
Je suis fier du parcours des petits pédestres. Parce petits que pédestres. C'est un bloc qui avance ensemble.
Jean ?
Non, je voulais seulement dire, comme résultat, des fois, à certains endroits, quand on voit qu'ils ont en permanence pollué, par exemple, long du Gave, près des Carmenterola, la municipalité a finalement mis des sacs poubelles qu'il n'y avait pas avant. Parce que c'est un endroit où les gens viennent un peu camper.
Pique-niquer.
Pique-niquer, oui, voilà. Et faire du feu, etc. En bord de Gave, c'est agréable, mais ils laissent tout sur place.
D'accord.
Et pour la raison aussi, parce qu'il n'y avait aucun conteneur, aucune poubelle.
D'accord.
Maintenant, il y en a. Reste à savoir si elles sont régulièrement
vidées.
Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas,
et utilisées aussi.
Oui,
parce qu'il peut y avoir des poubelles et puis on peut,
oui,
on peut
même
aussi
à 5 mètres, ils ne vont pas faire 5 mètres. Quoi.
Oui.
Voilà, mais ça, c'est un endroit de pique-nique classique qui, pendant des années...
Il n'y avait rien de fait là-bas,
oui. Rien n'avait été fait.
D'accord.
Donc, et en plus, comme il y avait des cabanes, en fait, des maisons abandonnées, l'ancienne gravière, ça servait vraiment de dépotoir. Mm-hmm. Et qu'on pouvait cacher un petit peu, puisque c'est derrière les murs, ça se passait.
D'accord.
Voilà, on a trouvé des tonnes d'ordures.
Et on a trouvé des grottes.
Et on a trouvé des grottes aussi.
Et vous avez trouvé des
grottes. Des grottes.
Des grottes, d'accord.
Oui, une grotte, une grande grotte d'ailleurs. Je fais venir la DRAC pour visiter. Et on ne la voyait pas, tout simplement, parce que c'était caché par des ordures.
D'accord.
Des ordures qui étaient jetées par le dessus. C'est comme une falaise. Et ces ordures cachaient l'entrée de la grotte. Elles étaient accrochées aux plantes. Et c'est en nettoyant, qu'on est tombé sur la grotte.
Parce que pour accéder des fois à des ordures, on pense à des ronciers qui pourraient le recouvrir. Donc avant de pouvoir y accéder, il faut aussi que vous y enleviez la végétation. C'est aussi votre travail, ça ?
Alors, ça fait partie du travail, on va dire, que l'association fait. Ça se fait en plusieurs temps. Donc nous, on va repérer, on va intervenir. Mais sur le temps de l'opération, effectivement, bon, ben, ça va être nous, organisateurs, parce qu'on est plusieurs à organiser les opérations. Et on va évaluer le temps qu'on a pour accéder aux déchets ou accéder au site, et ensuite ben, le temps de ramassage, le temps de tri. Donc c'est 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, ça va dépendre.
D'accord.
Mais oui, effectivement, on essaie de faire ça beaucoup plus en hiver, par contre, pour pas avoir ce problème de végétation. Et oui, je préfère à la limite avoir que des ronciers à couper. Je sais que ça va repousser, ça a aucun impact. Si on commence à faire des opérations en plein air en été, il y a les tiques, il y a les serpents, mais aussi on va aussi détruire la nature qu'on essaye de préserver.
D'accord.
C'est pour ça qu'il faut savoir se mouiller un petit peu pour en revenir à tout à l'heure.
D'accord. Voilà. Et des moments, voilà.
Et s'il pleut, il pleut. On choisit pas, mais voilà, c'est pas grave.
Voilà. Vous voulez nettoyer, mais conserver la biodiversité.
Exactement. On est là pour. Et on vit au milieu des Pyrénées pour.
Samedi 16 mars, à partir de 8h, toutes les personnes qui seraient intéressées pour venir donner un petit coup de main, nettoyer notre belle nature, rendez-vous est donné au Palais des Congrès de Lourdes, donc 8h avec un petit café, et puis après les équipes seront formées à ce moment-là. Donc collecte de déchets du côté du Pic du Gers, du Béout, du Bois de Lourdes, du bois au-dessus de l'usine Seb, hein, qui c'est, voilà, vers le quartier de Sarsan.
Sarsan, voilà, exactement.
Et, et puis également ce qu'on appelle le bois de Mourle, hein, voilà, qui appartient aussi à la commune de Lourdes.
Exactement.
Et donc voilà, il y aura bien sûr des différentes associations. C'est à l'initiative donc, de la Fédération française de chasse. Et donc c'est un mouvement national. 34 départements vont se mobiliser ce week-end, dont le département des Hautes-Pyrénées et la ville de Lourdes. Et donc ben, ça se passera donc le samedi 16 mars avec donc 8h le démarrage et à 11h30 eh bien les chasseurs offriront un casse-croûte donc à midi pour les gens qui auront travaillé.
Parce voilà, que, exactement. Voilà,
ça sera un peu le...
La condition c'est avoir la bouche jusqu'aux oreilles.
Voilà. Merci beaucoup. Hein. Donc on incite vraiment les gens à venir consulter votre page Facebook pour se tenir informés des opérations que vous menez, des changements de mentalité aussi qui vont s'opérer petit à petit. On a bien compris que vous n'étiez ni dans le jugement, ni dans la critique. Voilà, vous faites.
On fait. Et les gens en font le constat qu'ils choisissent.
Voilà, voilà, exactement. Cette opération s'appelle J'aime la nature. Et quel plaisir d'avoir aujourd'hui reçu Fabrice Nieto-Borde. Avec vous aussi, Jean Blais.
Merci
d'être venus tous les deux pour nous parler de cette belle structure, les petits pédestres. Voilà, petit clin d'œil donc à Kaamelott et puis un autre clin d'œil que vous vouliez faire à un auteur qui vous tenait à cœur et qui est décédé il n'y a pas très longtemps.
Oui, à monsieur Akira Toriyama, voilà, pour ceux qui connaissent et qui, tous les jeunes hommes, je pense, de 40 ans ou moins, ou parents qui ont été soulagés grâce à cette série, mais voilà, grand auteur, auteur de Dragon Ball. Connu en France spécialement, donc voilà, j'aurais voulu lui rendre hommage aujourd'hui.
Et j'ai vu une très belle photo, hein, une illustration hein, de Dragon Ball qui accompagnait son créateur vers le cimetière.
Quoi. C'est ça, exactement.
Ouais, c'était voilà, émouvant. Voilà, petit clin d'œil que vous vouliez faire, donc à travers Kaamelott aussi, parce que les petits pédestres, ça vient aussi de
voilà.
Kaamelott.
Beaucoup de clin d'œil.
Et merci d'être venu jusqu'à nous, une belle opération, et puis bah, écoutez, les antennes de présence vous sont largement ouvertes parce que voilà, nettoyer la nature sans jugement, sans critique, c'est rare aujourd'hui. Et bravo pour ce que vous faites.
Un grand merci et un grand merci à tous les participants.
Merci Philippe.
L'heure de pointe, Philippe Subercase.